Soleil.
Ah,
je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de la crise 2.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis. Contre la colonie et ton fichier. C'est tout le temps vénère, c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec sur la tête.
C'est amusant.
Radio Camille.
Anti-capitaliste.
Radio Camille 102.2. Camille Info du vendredi. Info 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Allumer mon micro, et oui, effectivement, un micro qui fonctionne sur Radio Canu, c'est 19h01, c'est le Canu Info du vendredi. Les informations vous arrivent tout de suite.
Et on va commencer par une petite vauquiaiserie, puisque vous le savez peut-être, Laurent Wauquiez pique les numéros de téléphone des lycéens, des lycéennes de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes.
On continuera avec un entretien de camarades du collectif Ouvrons les yeux, qui s'occupe de familles qui dorment place Satonnet depuis le 20 août. Et elles viendront ici nous expliquer ce qui s'est passé depuis une semaine qu'on les a reçues ici même.
Et ensuite, on vous parlera de la loi Elan, donc sur le logement, qui s'apprête à criminaliser les plus précaires.
Du logement, nous passerons à l'antifascisme. On vous parlera notamment d'un procès d'Antifa à Paris suite au décès de Clément Méric, et d'un procès aussi de skinhead et de fascistes à Lyon.
Et puis, on passera aux d'autres violences qui sont cette fois commises par la police. Et puisqu'ils ont beaucoup tué cet été, liste des morts et des blessés qui impliquaient la police en Île-de-France.
Et puis, on passera à l'échelle internationale et on parlera des vendeurs de bière Heineken au Nigeria qui forment des prostituées pour booster leurs ventes.
Et ensuite, on vous parlera du procès Altsatsu au Pays Basque.
Et puis on vous parlera plus de rien, un mini agenda, c'est parti.
Qu'est-ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région?
Wauquiez.
L'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. L'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez de nous avoir rejoint, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme?
Quelle ferme?
À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con?
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et que cette année vous réserve à tous de belles réussites. Laurent Wauquiez, président de la région.
C'est en utilisant les données du Pass Région, un ensemble d'aides destinées aux 15-25 ans, que le président du Parti des Républicains a pu s'adresser personnellement aux lycéens et lycéennes qui faisaient leur rentrée. Dans le formulaire de demande de cette carte, les jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en effet très fortement encouragés à indiquer leur numéro.
Important, il est fortement recommandé de renseigner le numéro de téléphone mobile du jeune bénéficiaire ainsi que son email afin de recevoir les offres et bons plans liés au Pass Région.
D'après le site du dispositif, la collecte agressive des 06 des bénéficiaires n'a pourtant pour but que d'envoyer des bons plans ou de signaler des événements. Rien d'impératif donc à filer son numéro, comme le recommande fortement le site. Quand on s'enregistre pour recevoir son pass, on nous demande deux choses.
Petite A, j'autorise la région à m'envoyer les bons plans du pass région. Place gratuite, tarif préférentiel. Petit B, j'autorise la région à m'envoyer des informations liées aux dispositifs régionaux, événements, actualités, questionnaires, etc.
Alors peut-être que Vauquier se place dans la case « bon plan » ou « dispositif régional ». En tout cas, on a cherché la case « j'autorise les vieux réacs à m'envoyer des messages perso », mais personne n'a trouvé. Un fichier de rêve pour l'obsédé de la communication à la tête de la région. Plus de 300 000 personnes ont réclamé ce pass très marqué idéologiquement, parce que quand même, par exemple, le nouveau pass région propose quelques nouveautés comme une prime à l'engagement associatif, mais il évite soigneusement le mot « contraception » dans ce volet « santé ». Fin juillet, dans une affaire semblable d'envoi massif de SMS non sollicités, l'office HLM de Rennes a été condamné à 30 000 euros d'amende. Vauquier, lui, est un habitué, rappelle un article dans Mediapart que vous pouvez retrouver. Il a déjà été accusé de détournement de données publiques en 2015 lors de la campagne régionale. De nombreux agriculteurs, artisans, habitants et habitantes de communes rurales s'étaient inquiétés après avoir reçu des mails ou des appels personnalisés de son équipe. La justice a même déjà été saisie fin 2015 après la publication d'échanges internes compromettants. Quand on pense à la masse de données personnelles accumulées par le pass région, ça fait un peu peur. Alors surtout, laissez pas traîner votre 06.
J'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Il y a tout juste une semaine à ce micro-là, les camarades du collectif Ouvrons les yeux étaient venus ici donc pour nous parler de ce qui s'est passé pour plusieurs familles expulsées au moins deux fois cet été. Alors elles sont de nouveau là, ces personnes, et on va leur demander, pour les auditrices et auditeurs qui n'auraient pas entendu, de nous résumer ce qu'on s'est dit la semaine dernière pour ce récapitulatif de l'été.
Bonjour. Oui, du coup, on était là la semaine dernière et brièvement, on avait dit que oui, il y a 70 personnes qui ont vécu deux expulsions en l'espace de deux semaines. À la base, c'est des personnes qui vivaient dans un bidonville, un parking souterrain à Vez. On avait ouvert un squat, notre collectif, et des sympathisants pour 70 personnes, une quinzaine de familles. Et notre squat a fait l'objet d'une mise en péril demandée par une expertise demandée par le président de la métropole. Et donc on s'était fait expulser en l'espace de 24 heures. Les familles qui n'ont pas eu de solution de relogement, enfin d'hébergement, c'est-à-dire une trentaine de personnes, avaient demandé à ce qu'on aille se poser devant une mairie pour faire des demandes politiques. Et donc on avait proposé la place Satonnet, sachant que le squat était dans le premier. Donc voilà, maintenant ça fait 17 jours. Qu'il y a 30 personnes qui dorment toujours sur la place Satonnet. On n'a toujours pas, comme on l'expliquait, on n'a toujours pas de lien avec les pouvoirs publics, hein, bien qu'on soit allé en personne au cabinet du préfet pour donner une lettre, pour faire lien, parce qu'on est un peu le seul collectif qui est là tout le temps. Mais bon, toujours pas de nouvelles. Aucun politique non plus n'est passé sur la place simplement pour saluer les familles ou constater ce qui s'y passait. En tout cas, la police nous laisse un petit peu plus tranquille maintenant. Et on a la chance d'avoir deux couples de personnes âgées qui ont été relogées, enfin réhébergées jusqu'à la fin de leur demande d'asile par l'association Forum Réfugiés. Voilà.
Donc pas vraiment de nouvelles de la part des autorités, des interlocuteurs?
Non, non, absolument pas.
Et les personnes qui ont pu être relogées, ça n'est que par l'initiative d'une association qui n'est pas du tout passée par l'intermédiaire des autorités, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça, ouais.
Mm. Ok. Est-ce qu'il y aurait des choses à ajouter sur, sur le, pour la question du devenir de ces familles, de leurs besoins?
Bah, du coup, au niveau des... Bonsoir à tous. Au niveau des dons, je vais vous faire un petit point sur, sur ce dont on a besoin de plus. Forcément des besoins de dons alimentaires, puisque on fait les repas midi et soir, des petits-déj, des distributions de café, tout ça qui sont toujours minimes, mais en fait hyper bienvenues. Vestimentaire aussi, on a toujours des deux enfants sur la place qui dorment tous les soirs là-bas. Donc des chaussures en taille 28, des caouets parce qu'il pleut, la rentrée il pleut, des pulls parce qu'il commence à faire frais. Aussi en termes d'hygiène, forcément serviettes hygiéniques pour ces dames, des rasoirs pour hommes et femmes, voilà, coton, des maquillons, enfin tout ce dont vous avez besoin chez vous aussi en fait. On a aussi besoin de couvertures parce qu'on a eu beaucoup de dons de couvertures, mais forcément elles sont de plus en plus humides et puis utilisées. Des palettes parce qu'on a eu l'idée aussi de rehausser le campement un peu justement à cause de l'eau, donc des palettes pourquoi pas. Et on a mis en place une collecte en ligne qui s'appelle Aider les Moldaves Place Sato. Donc l'idée c'était de pouvoir nous financer l'essence par exemple, parce qu'on fait, pour vous donner un exemple, on fait pas mal d'allers-retours au bain public à Gerland, puisque ceux qui étaient existants en centre-ville ont fermé évidemment. Donc voilà, pour leur permettre de se doucher un maximum de fois dans la semaine et préparer les repas aussi, parce que ça coûte 17 jours de repas midi et soir pour 30 personnes, ça coûte. Voilà, pour l'instant on en est là, donc chaque don, même vêtements bébés, ce dont vous avez chez vous, dont vous ne vous servez plus, voilà, sera le bienvenu.
Alors vous, on peut vous trouver sur la place Satonnet, votre collectif, il y a à peu près toujours quelqu'un du collectif sur la place Satonnet, ou alors on va directement voir les familles lorsqu'on a des dons à faire?
Bah là on a tous repris le boulot, donc on essaye de faire des permanences le midi, le soir, un peu l'après-midi, mais c'est pas toujours évident. Je peux vous redonner mon mail, je l'avais fait vendredi dernier, donc c'est marinevalat@gmail.com. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez très bien aussi aller voir les familles, elles parlent pas du tout français, mais vous pouvez faire des dons, bien sûr. On conseille aussi pour les dons, bah, au lieu d'acheter 2-3 trucs différents, de faire toujours par 30. Donc autant acheter, je sais pas, 10 briques de lait et 3 paquets de croissants, je dis n'importe quoi, mais histoire que ce soit toujours équitable. Voilà, ça c'est un truc auquel on tient. Sinon, vous n'êtes absolument pas obligé de passer par nous.
D'accord, très bien. Avez-vous des choses à ajouter?
Ouais, on aimerait aussi remercier quelques assos qui se sont mis en collaboration avec nous. Bah, déjà Médecins du Monde qui était là depuis le début, puis le Bidonville, après au squat, et puis maintenant qui nous aide pas mal. Notamment parce qu'aussi il y a énormément de personnes fragiles sur la place Satonnet. On le rappelle, beaucoup de gens qui ont du diabète, de l'hypertension, des problèmes de cœur, etc. Puis il y a des petits aussi. Il y a aussi Forum Réfugiés, bah justement, qui nous ont permis de reloger deux couples de personnes âgées. Il y a l'association Classe qui est en train de bosser pour scolariser nos deux petits qui habitent toujours sur la place. Il y a le Secours Populaire aussi qui nous distribue pas mal de trucs en termes de nourriture. Voilà.
Et une dernière petite chose aussi, si vous avez la motivation et l'envie d'envoyer des mails au pouvoir public ou des courriers pour faire pencher la balance, parce que vous vous doutez qu'il y a beaucoup de détracteurs qui justement ont envahi les boîtes mails de la métropole, de la préfecture, qui leur a gentiment demandé d'aller voir la mairie et de se plaindre à la mairie, mais soi-disant c'est une erreur. Et voilà, n'hésitez pas juste à faire savoir que vous aussi ça vous touche, et humainement, sans politiquement ou quoi que ce soit, mais humainement ça devient un petit peu insupportable. Voilà.
Très bien, merci d'être passé. Alors cette histoire de familles qui ont été expulsées, ça nous rappelle, donc cet été, hein, au mois d'août, expulsées d'un immeuble, ça nous rappelle aussi à l'actualité plus largement française, ce texte de loi, la loi Élan, qui est actuellement au Sénat.
Et oui, la loi Élan, ça veut dire évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, doit être définitivement adoptée par le Parlement en septembre. Alors en l'état, cette loi, elle va conduire à privatiser des dizaines de milliers de logements sociaux chaque année et à réduire le nombre de logements accessibles aux personnes handicapées. Aussi, elle va criminaliser les occupants sans titre, locataires non déclarés, victimes de marchands de sommeil ou squatteurs, tout en accélérant les expulsions et la destruction des habitats autoconstruits. Alors on commence avec la liste des saloperies que nous promet la loi Élan. Le Sénat, qui, donc, comme on le sait, compte une large majorité à droite, a entre autres voté une mesure criminalisant les occupants sans titre. L'occupation sans titre d'un local à usage d'habitation sera désormais passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors pour rappel, aujourd'hui, seule l'entrée par effraction dans le domicile d'autrui est pénalisée. C'est ce qui se passe avec les squats en général, c'est qu'il y a juste l'effraction qui peut poser problème. Cette peine d'un an d'emprisonnement, elle pourra donc également viser les occupants de logements vacants ou même les locataires au noir qui ne squattent pas le domicile de quelqu'un mais qui habitent un logement sans contrat. C'est-à-dire en fait vous vous faites exploiter par un propriétaire qui vous loue un truc au noir, mais c'est quand même vous qui risquez 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement, bien sûr. Alors, occuper des immeubles vides pour y mettre à l'abri des familles à la rue va aussi devenir de plus en plus risqué. En effet, pour prendre des exemples, les 80 personnes qui ont été expulsées fin août d'un ancien immeuble d'armée à Dijon, les expulsions dont on vient de parler et qui ont abouti à la situation de Place Satonnet ou potentiellement ce qui pourrait se passer avec l'Amphi-Z à Villeurbanne, les personnes qui ont aidé à l'occupation de ces lieux, elles deviennent elles aussi passibles d'emprisonnement. Donc on réprime aussi de plus en plus la solidarité. L'article 58 permet aussi d'expulser des occupants, et ça c'est nouveau aussi, sans titre, même pendant la trêve hivernale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis le Sénat a aussi voté la réduction des délais de procédure d'expulsion en les divisant par deux, de 2 à 1 mois. Donc en fait on durcit un petit peu tout azimut les questions de solidarité sur le logement et globalement la possibilité d'accès pour les plus démunis. Et puis le Sénat a ajouté des trucs super, comme par exemple le fait que les consommateurs de stupéfiants et leurs familles pourront être expulsés. Donc troisième mesure qu'ils ont ajoutée, la résiliation du bail locatif lorsqu'un des habitants a été condamné pour usage ou trafic de stupéfiants. Il suffit qu'un des membres d'une famille soit condamné pour que toute la famille se voit obligée de quitter son logement. Et comme la mesure concerne aussi la détention de stupéfiants, les simples consommateurs peuvent être visés. Près de la moitié des adultes de 18 à 64 ans en France ont déjà consommé du cannabis. Donc au cours de leur vie, ça fait quand même potentiellement 50%, voire quasiment 100% si on considère que c'est la famille des personnes qui deviennent potentiellement expulsables grâce à cette magnifique mesure. On a hâte qu'un sénateur se fasse expulser parce que son fils aura fumé du shit dans le domicile familial. Bref. En tout cas, on continue à s'attaquer aux plus faibles. On les attaque aussi particulièrement à Guyane et à Mayotte, où les maisons autoconstruites pourront désormais être détruites sur simple ordre du préfet. Alors déjà, lors du vote de la loi à l'Assemblée nationale, les députés avaient adopté plusieurs mesures qui placent les locataires les plus pauvres dans des situations encore plus difficiles. La loi permettra une expulsion plus rapide des locataires endettés qui ne sont pas en mesure de reprendre le paiement du loyer, par exemple. Les députés avaient aussi voté une mesure pour l'expulsion et la destruction rapide des quartiers dits informels dans les territoires de Mayotte et de Guyane. Le préfet pourra, je cite, l'article 57 bis, c'est précis, par arrêté ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. Alors de quel type d'habitat s'agit-il ? Eh ben, un habitat informel, selon la loi française, est un logement construit sans permis de construire ou dénué d'alimentation en eau potable ou de réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou encore de voirie ou d'équipement collectif propre à en assumer la desserte. En gros, c'est extrêmement vague et vaste cette définition du logement informel, et en Guyane, ce sont des milliers de familles qui sont concernées sur des quartiers construits parfois depuis plus de 15 ans. En fait, il y a en Guyane une tension foncière très forte, donc une spéculation foncière importante, et les gens n'arrivent pas à trouver de terrains à bâtir, qui sont beaucoup trop chers pour les revenus des personnes, et alors elles installent des habitations où elles peuvent. En mai dernier, des habitants d'un quartier informel de Guyane avaient d'ailleurs manifesté contre leur expulsion programmée. Des politiques de reconnaissance et de viabilisation des quartiers informels sont pourtant à l'œuvre, par exemple au Brésil, ça existe dans d'autres pays, avec notamment la régularisation de plusieurs favelas qui ont poussé avec l'exode rural qui sévit là-bas. Et la France de Macron, elle prend évidemment la direction inverse en autorisant la destruction sur ordre du préfet sans aucune procédure judiciaire de ces habitats. Et enfin, dernière saloperie, l'invention d'un bail ultra précaire pour les jeunes travailleurs. La loi Élan va également réduire le parc de logements sociaux en poussant la privatisation de dizaines de milliers de logements publics chaque année et en affaiblissant les obligations des communes en matière de logement social. Elle va donc aussi créer ce bail locatif qui sera appelé un bail mobilité. Ce bail extrêmement court, destiné aux étudiants, aux apprentis, aux stagiaires, aux services civiques et à n'importe quel travailleur en contrat temporaire depuis que le texte est passé au Sénat, est de 10 mois minimum, non renouvelable, non reconductible. Donc c'est vraiment le bail le plus pourri que tu puisses avoir. J'imagine qu'en plus on va garder les mêmes conditions débiles que personne ne peut atteindre aujourd'hui. Et donc ce bail, en fait, il est encore plus précaire que le plus précaire qui existe aujourd'hui, qui est le contrat de location d'un appartement meublé. Donc on est vraiment en train de durcir tout dans tous les sens. Et pour finir, il a été annoncé cette semaine que cette année, on n'allait pas diminuer les APL comme on l'a fait en 2017, mais qu'elles vont augmenter selon l'inflation, ce qui en gros conduit de toute façon une nouvelle entaille dans les aides publiques au logement. Voilà, bienvenue en France, essayez de vous loger si vous le pouvez.
La caricature de cette ligne tentant de se faire passer pour le rempart face aux violences fascistes, c'est Emmanuel Valls qui s'était déclaré antifasciste à l'Assemblée nationale. Déclaration qui prêterait à un fou rire si sa politique anti-migratoire, islamophobe, de casse sociale et répressive n'était pas devenue la norme. C'était une dépolitisation, réduire l'antifascisme à la seule lutte contre les organisations d'extrême droite et masquer la critique antifasciste de la société capitaliste, basculant de plus en plus dans une gestion répressive et autoritaire. La gauche semblait communier dans un rejet moral de l'extrême droite, mais aujourd'hui, l'offensive répressive et médiatique frappe depuis lourdement les groupes et mouvements qui se revendiquent d'un antifascisme de lutte. Nous avons pu tous remarquer cette répression au moment de l'affaire de la voiture brûlée du Quai Valmy pendant le mouvement contre la loi travail. La figure de l'antifemme est venue incarner le casseur, le militant ultra-gauche, et s'est vue presque à elle seule personnifier le Black Bloc, épinglé dans les affrontements du 1er mai 2018. Notre antifascisme a construit sa légitimité dans des luttes en solidarité avec la Palestine, contre l'état d'urgence, contre les violences policières et contre l'islamophobie. C'est pourquoi il n'est pas suffisant à nos yeux de demander des comptes aux agresseurs de Clément, mis en examen, et à eux seuls. Pour nous, la fascisation des institutions et des pouvoirs se joue ailleurs, dans le racisme d'État, dans l'institutionnalisation de l'islamophobie, dans l'impunité policière et dans l'agitation quasi insurrectionnelle des syndicats policiers. Quant au procès, on peut s'attendre déjà à observer la lâcheté des fascistes, notamment à travers leur défense judiciaire, développée quand ils sont mis en accusation pour agression, violence ou meurtre. Leur stratégie, c'est de ne pas assumer leur appartenance politique. Ainsi, on peut anticiper cette ligne de défense, la ligne de défense principale d'Esteban Morillo et de Samuel Dufour, meurtriers de notre camarade et ami Clément. Ils vont jouer la carte de la repentance, de la rédemption, se positionnant en victime de manipulation. C'est une défense systématique des militants d'extrême droite. Dépolitiser leur action, réduire leurs engagements politiques à des concours de circonstances et résumer leurs meurtres à des accidents ou à de la légitime défense. Cette dernière année, que ce soit par l'agression qui a failli être mortelle à Nantes, où les auteurs ont nié leur appartenance politique à l'extrême droite, l'attaque du lycée autogéré à Paris, où les auteurs amoindrissent leur engagement raciste, ou encore les multitudes de violences racistes exercées par le Wolf Clan, pour ne citer que, maintes et maintes fois condamnées, on observe constamment le même système de défense, se faire passer pour les victimes d'un embrigadement sectaire, rejetant la responsabilité sur les chefs de meute. Du FN, rebaptisé en Rassemblement National, au Bastion Social, en passant par les identitaires jusqu'aux néo-nazis du JNR, la défense reste la même. Négation, embrigadement ou rédemption. Cela illustre le refus d'assumer la mise en pratique de leurs projets politiques, exterminer leurs ennemis de race et leurs ennemis politiques. La ligne de défense face à ces violences doit être de les sortir de la rubrique des faits divers pour les remplacer au centre des pages politiques. Le moment de vérité que nous attendons, c'est à nous de le construire, non seulement en mettant en accusation et en demandant des comptes aux fascistes qui ont tué Clément, mais en mettant en accusation le système qui nourrit et qui renforce ces franges réactionnaires. Nous sommes militants politiques et pour nous, les responsabilités ne sont pas d'abord légales, mais elles sont politiques. Clément a choisi son camp et c'est depuis son camp que nous continuons à combattre et que nous accusons dans la rue les fascistes et l'État. Merci.
Alors c'était un discours qu'on a pu entendre place Saint-Michel à Paris lundi à la veille de l'ouverture du procès Clément Méric dont vous avez peut-être entendu parler. Ça fait 5 ans que Clément Méric est mort à Paris, tabassé par des militants de groupuscules d'extrême droite. Et depuis mardi donc jusqu'au 14 septembre, 3 skinheads passent à la barre. Et comme le disait cette camarade antifasciste, c'est sans surprise que le principal agresseur de Méric parmi les trois, le fasciste Esteban Morillo, a joué mardi la carte de la repentance. Morillo encourt 20 ans de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commise en réunion et avec arme. Alors il a reconnu avoir porté des coups à Clément Méric mardi et il affirme pourtant aujourd'hui qu'il a bien changé. Il dit « Je suis plus réfléchi, moins influençable, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme j'étais avant ». Lors de l'audience de mardi toujours, on en apprend un peu plus sur ce garçon qui fréquentait il y a 5 ans et qui continue sans doute à le faire un petit peu, au moins pour se faire effacer des tatouages, le local, un bar du 15e arrondissement géré par Serge Ayoub, qui est une figure connue des skinheads à Paris et en France. À la barre, après le couplet de la repentance, Morillo minimise, et je le cite, « J'ai fait quelques temps à troisième voie le groupe de Serge Ayoub. D'après ce qu'on m'en a dit, c'était un syndicat ni de droite ni de gauche avec une conviction solidariste. » C'est quoi une conviction solidariste, demande la juge à ce moment-là. Et lui répond, bah je sais pas. Esteban Morillo poursuit, je ne les ai aidés que pendant 6 mois pour faire un peu nombre et venir avec les amis au manif. Et puis il continue cherchant à dépolitiser le procès comme le font presque toujours les fascistes conviés à la barre. Il affirme qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Quand on lui demande pourquoi il avait jusqu'à très peu, jusqu'à cet été en fait, un tatouage travail, famille, patrie sur l'un de ses bras, il répond « Bah, je savais pas ce que c'était le régime de Vichy, je trouvais que la devise elle était belle. » Et le tatouage du groupe d'extrême droite, troisième voie sur son torse, ça c'est par hasard, lui demande l'avocat de la défense. Et lui répond « Bah, c'était pour impressionner les amis. » Ces marques sur son corps, il les a d'ailleurs, donc, comme je vous le disais, fait recouvrir cet été. Il a un peu galéré, a priori, puisqu'il y a pas mal de tatoueurs qui n'ont pas voulu les effacer. Pourtant, quelques jours avant la mort de Clément Méric, il a participé à une manifestation. Et sur une des photos qui a été prise pendant la manifestation, il tient un drapeau des jeunesses nationalistes révolutionnaires, un groupuscule de Serge Ayoub, qui, comme lui rappelle, l'un des avocats de la famille de Clément Méric. Et puis à ceci, il faut ajouter que 2 points américains ont été découverts chez lui suite au drame, mais il assure ne jamais en avoir utilisé. Son passé fasciste ne serait en fait qu'une histoire de mauvaises rencontres. Et je le cite à la barre, « Je regrette énormément. Ça m'a apporté que des problèmes et ça continue. J'étais très influençable, je voulais avoir des amis et j'étais prêt à tout pour les garder, ses amis. » Il me dit qu'il se souvient plus vraiment qu'il avait des bagues nazies, des croix gammées, des références à Hitler et Mein Kampf sur sa page Facebook. Ce ne serait que des erreurs de jeunesse pour se faire bien voir des amis. Esteban Morillo a des projets d'avenir, c'est ce qu'on apprend, on en apprend au final lorsqu'il vient à la barre mardi. Il voudrait, je cite, « ouvrir un refuge pour animaux maltraités ». Il adore les animaux et sa compagne aussi. Elle est très gentille et il l'a rencontrée à une expo de véhicules américains. Ils ont acheté une maison et ils font des travaux. Samuel Dufour, lui, est le deuxième larron des gens appelés à la barre, ces fachos donc qui ont tué Clément Méric il y a 5 ans. Lui, il n'a rien gommé de ses tatouages, mais il nie avoir porté un coup à Clément Méric le jour de la mort. Les jurés se passent alors de main en main les photos de ses tatouages, tandis qu'il se tient à son tour à la barre. Il est boulanger, il a 25 ans, et il affiche un étonnant paradoxe, comme un corps coupé en deux. Sur un bras, des dessins à l'effigie des films de Tim Burton, ambiance étrange Noël de Monsieur Jack. Sur l'autre, des phrases nazies comme « sang et honneur » et des symboles de troisième voie qu'il a choisi en signe de ralliement à son groupe, dit-il à la barre. « Bon, je savais que c'était rattaché au parti nazi, mais ça ne me posait pas de problème, même si j'étais pas nazi. » Commente-t-il. À la barre, donc, mardi. À 19 ans, il travaillait donc au moment de l'agression comme apprenti boulanger à Roissy et il découvre le milieu skinhead par l'entremise d'un ami qui fréquentait lui aussi le local de Serge Ayoub. Dans le bar parisien, il se fait des copains de son âge, va boire des coups, mais ne s'intéresse pas aux réunions politiques. On retrouve là encore cette stratégie de dépolitiser le procès. et il essaie de faire de son mieux. Pourtant, sur sa clé USB, les enquêteurs retrouvent des images là aussi de croix gammée, d'aigle nazi et quatre photos d'Adolf Hitler dont l'une est accompagnée du drapeau français et d'un slogan « Nous voulons un Hitler français ». Alors interrogé sur cette image, il répond mardi « C'était plus par provocation ». Le troisième larron, Alexandre Hérault, 29 ans, ne fait pas face au même enjeu judiciaire puisque lui, il comparaît pour des violences aggravées sur les proches de Clément Méric. Lui, il n'a pas tapé Clément Méric et il est passible de 5 ans d'emprisonnement pour ses violences sur les copains de Clément. Alors du coup, il s'exprime avec un petit peu plus de décomplexion hein, à la barre et donc il nous dit qu'à l'époque du meurtre en 2013, il trouve auprès de ses nouveaux camarades de troisième voie, je cite, une solidarité, une entraide pour parler de ce qu'il vit en France. Il défile donc à leur côté, et notamment dans des manifestations, de soutien à Bachar el-Assad. Il recouvre lui aussi son corps de tatouage. Alors sur son corps, sur sa peau, lui, on peut lire honneur et fidélité. Il y a également une croix celtique, une toile d'araignée, un drapeau français, un Heil Hitler très fin. Par provocation, dit-il, et je le cite, « Je les ai fait modifier par la suite. Après des discussions avec mon père, il m'a fait me rendre compte que je suis allé trop loin sans réfléchir au sens. » Et puis alors là, la présidente du jury du tribunal lui dit « On choisit quand même ces thèmes de provocation, non monsieur ? Vous, c'était à Hitler. » Voilà, ça c'était pour le mardi. Mercredi, je vais aller plus rapidement sur les autres jours. Mercredi, deuxième jour d'audience aux Assises de Paris. Alors là, on a pu voir à la barre les parents des agresseurs, des trois skinheads entendus dans ce procès, notamment donc les parents de Samuel Dufour et Alexandre Hérault. Alors les parents étaient a priori peu prolixes, les deux familles ont au moins en commun d'être politisées bien à droite, et l'une des deux se définit comme patriote. Et quand la présidente interroge la mère de Hérault sur le Troisième Reich, cette mère assure ne pas savoir ce que c'est. Voilà. Jeudi, troisième jour du procès, ont été entendus les parents de Clément Méric, la mère qui a décrit son enfant comme un garçon de conviction, un garçon espiègle et curieux. Est revenu un petit peu sur la généalogie de sa politisation à Brest autour de 14-15 ans, lui qui défendait donc des idéaux forts. On a aussi entendu jeudi un légiste qui n'était pas sûr que Clément Méric ait été frappé par un poing américain, ce qui a tout de suite ravi la fachosphère. Ça c'était donc hier soir, et aujourd'hui, quatrième jour de procès, les déclarations du médecin légiste d'hier ont été quelque peu, si ce n'est démenti ou au moins bousculé, puisque un contre-expert a estimé qu'on ne pouvait pas conclure qu'il n'y avait pas eu l'usage d'un poing américain, ou pour le dire de manière affirmative, qu'il y avait sans doute eu l'usage d'un poing américain. Je le cite, Clément Méric a été victime de plusieurs traumatismes directs, compatibles autant avec des poings nus qu'avec des bagues et un poing américain. Et sans doute, le poing américain était-il plausible. À la cour, un médecin expert, donc c'est lui qui a parlé, et ce médecin expert a travaillé sur le dossier médical de Clément Méric. Voilà. Et alors, il y a une image du crâne de Clément qui a été projetée au tribunal, une image d'un scanner, et il a fait démonstration, ce médecin, que c'est une fracture incontestable, le diagnostic est visible, même par un non-médecin. Voilà. Donc ça remet complètement en question les déclarations de l'autre légiste d'hier. Voilà, alors la fin du procès, c'est le 14 septembre et on s'en reparle donc sans doute la semaine prochaine. Et hier, il y avait un procès assez équivoque à Lyon qui mettait là aussi en cause des fachos pour des agressions.
Et oui, mais je crois que c'était avant-hier.
Ah.
Mais en effet, le 5, oui, donc c'est avant-hier, a eu lieu à Lyon un procès qui impliquait là aussi des militants d'extrême droite pour des faits d'agression avec arme blanche. Donc ces faits remontent en février 2014, où 5 jeunes s'étaient fait agresser dans le Vieux-Lyon et 2 d'entre eux, qui étaient mineurs, avaient pris un coup de couteau. Cette attaque au couteau donc sur 2 mineurs dans le Vieux-Lyon portait la marque de l'extrême droite radical, on le sait, même si la même stratégie que là Pour les meurtriers de Clément Méric, se sont reproduits à Lyon il y a deux jours. Du coup, c'était un vendredi 14 février 2014 où un groupe de cinq amis décide de boire un verre à Saint-Jean pour fêter un anniversaire. Ils sont repérés par un groupe d'une dizaine de personnes au niveau de Saint-Paul. Ils sont insultés de sale gauche et prennent des coups. Ils réussissent à s'échapper, mais au niveau de la cour d'appel, ils ont de nouveau été chargés par un groupe qui, a priori, était plutôt les mêmes personnes. Il y a encore eu des échanges de coups et c'est là qu'une personne a frappé avec un couteau. Dans un premier temps, la victime est parvenue à fuir grâce à l'aide de ses amis, mais ils sont rattrapés au niveau de la passerelle devant le palais de justice. Et là, le deuxième mineur prend un coup de couteau dans le dos, alors donc qu'il tente de s'échapper et qu'il n'y a plus vraiment de rixes, quoi, d'agression. Cette agression aurait pu être plus grave, mais les deux victimes s'en tirent quand même avec une dizaine de points de suture et plusieurs jours d'arrêt maladie. Le premier doit la vie a priori à son épais blouson et l'autre a vu la lame glisser sur une vertèbre, évitant de peu la colonne vertébrale. Du coup, selon la police, les deux principaux accusés sont des cadres du mouvement identitaire Reben. Et un autre d'entre eux est un ex-militant du GUL qui a déjà été condamné pour violence. De toute façon, tous les prévenus, ils étaient cinq, étaient déjà fichés pour des liens avec l'extrême droite radicale. Alors ça, bien sûr, il y a les avocats des accusés qui prennent soin de nous dire l'inverse et de nous dire que rien ne permet de dire que ces jeunes font partie de l'ultra-droite. Et il y a un avocat qui ose dire au sujet de l'agression qu'il faut bien que jeunesse se fasse. Alors oui, c'est vrai qu'un coup de couteau, jeunesse peut se faire, mais c'est quand même un petit peu osé. Bref, du coup, on peut trouver ça un peu chelou parce que quand même, a priori, lors de l'audience, il y avait au moins une vingtaine de personnes de l'extrême droite radicale qui étaient présentes pour soutenir les accusés, entre des membres du Parti National Français, des membres du GUD qui est devenu le Bastion Social, et aussi des ultras. Du coup, tout ce petit monde était là, donc on imagine quand même les liens avec la droite radicale. Ce mercredi, du coup, lors de leur procès, les prévenus ont effectué à peu près le même numéro qu'on vous a parlé juste par avant au procès en ce moment à Paris. Alors, le premier qui a été interrogé reconnaissait avoir été sur les lieux, avoir donné des coups, mais il refusait de donner des indications sur les actes commis par les autres. Il invoquait une perte de mémoire. Ensuite, il a été mis face à ses contradictions. Puis il a dit qu'il connaissait pas celui qui avait donné les coups de couteau, enfin en tout cas celui qui est suspecté avoir porté les coups de couteau. On lui dit que quand même il y a eu des échanges de téléphone et de texto entre eux. Alors il dit oui, bon d'accord, peut-être je le connais un peu. Bon bref, du coup, celui qui est accusé d'avoir donné les coups de couteau, lui carrément il dit qu'il n'était pas là. Voilà, c'est vachement plus simple. Sauf que sa présence était confirmée par la géolocalisation de son téléphone, un témoin qui a déclaré l'avoir entendu crier « je vais te planter » et des images de caméras de vidéosurveillance qui montrent qu'il tenait un couteau juste avant l'agression. Ça fait quand même beaucoup. La procureure réclamait 10 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Et finalement, donc ce dernier, hein, qui a a priori donné les coups de couteau, est condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement. Un des autres est condamné à 6 mois ferme, le troisième à 18 mois, dont 9 avec sursis. Les deux derniers sont condamnés à 12 mois avec sursis, donc les 5 ont été quand même jugés coupables. Et à suivre, parce qu'ils peuvent toujours faire appel, et on ne sait pas non plus ce que va dire et mettre en place le juge d'application des peines. Voilà, pour ce qui s'est passé, à noter quand même que la juge elle a condamné plus fermement que la réquisition de la procureure, ce qui est, je crois, ce qui arrive assez rarement. Et aussi qu'on a vu quand même souvent des réquisitions bien plus lourdes pour des actes bien moins graves. Du coup, je trouve juste ça pose question.
Thank you. Je vous déteste, vous êtes mon calvaire. Je voudrais vivre sous l'océan, dans les montagnes ou en enfer. Je voudrais faire tout en maintenant. Je vous déteste, vous êtes mon calvaire.
Violence policière. Canu info.
La police qui tue, la police assassine. Les gens de drogue, nous sommes la police. La police mutine.
Violence policière.
La hausse des tirs policiers qui était vraiment mise en avant en 2017 en 2018, c'est confirmé cet été. Il n'y a pas eu une semaine sans qu'on le voit passer un article parlant d'un homme mort ou dans le coma suite à une intervention policière. Et comme souvent, l'Île-de-France est en tête des exactions de la police républicaine. Petit rappel de toutes les affaires éclaboussant cette charmante institution pendant l'été 2018. Petit rappel non exhaustif puisqu'il ne concerne que l'Île-de-France et qui a été réalisé par nos camarades de parislutte.info. Alors évidemment, comme je disais, cette liste n'est pas exhaustive. Combien de personnes agressées quotidiennement par la police ne parlent pas, n'ont pas de contact avec des journalistes? Combien n'ont pas la chance d'avoir été filmées? Nous nous basons principalement, disent les camarades de Paris Lutte, sur des articles de presse, en notant tout de même que les flics et les journalistes ont une sale tendance à se refiler des infos et des petits services. Des journaux comme Le Parisien ou Le Progrès ici servent carrément d'annexe au service communication de la préfecture de police.
Le 14 juillet à Villeneuve-la-Garenne, un médiateur de quartier est gazé et sérieusement blessé par un tir de flashball. Suite à un contrôle un peu tendu, un médiateur de quartier qui tentait de résoudre le conflit se fait tirer dessus par les flics à coups de flashball dans le visage à bout portant. Son frère prend deux coups de taser, les deux personnes ont 8 et 10 jours d'ITT. Une enquête avec vidéo à l'appui est ouverte.
31 juillet, Créteil, un homme étranglé fait un malaise dans le commissariat. Cet homme avait 43 ans et il fait une crise de nerfs. Il se fait étrangler par un flic qui voulait le maîtriser. Il a fait 5 jours de coma. Il restera probablement hémiplégique. L'homme s'était présenté de lui-même au commissariat dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Alors, peut-être n'allez jamais dans le comico de votre plein gré, ça a l'air d'être dangereux. Le policier responsable de l'étranglement n'a pas été suspendu, évidemment. Une enquête a été ouverte le 2 août suite à une plainte de la famille.
8 août, Melun, un jeune se fait tirer dessus par les flics. Prenant la fuite lors d'un contrôle d'identité, il est poursuivi par la BAC. Sort son couteau. Un des BACEUS se casse la figure et en réaction, ses collègues tirent sur le jeune. Ils finissent par le faire évacuer par hélicoptère. Sa famille, a engagé des poursuites.
14 août, mort par balle de Romain à Paris après une course-poursuite en voiture. Suite à un refus d'obtempérer, une poursuite rocambolesque et quasiment tout le long en sens interdit, le flic étant monté comme passager sur le scooter d'un particulier, Romain meurt vers Montmartre d'une balle tirée à travers la vitre de sa voiture à l'arrêt. Kevin, le policier de 23 ans qui s'est inventé une vie dans une série en 40 heures de garde à vue pour, je cite, « violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique, puis est mis sous contrôle judiciaire ». La famille de Romain demande à ce que le meurtre soit requalifié en homicide volontaire. La police, elle, soutient corps et âme le policier. Évidemment, le syndicat Alliance tient la ligne.
Le 21 août à Orly, suite à un contrôle routier, Clayton, 15 ans, qui voulait tester un scooter, croise les flics. Ceux-ci mettent les gyrophares et ce qui provoque la panique de Clayton qui s'enfuit. Il maîtrise mal son scooter et se tue. Il est important de noter que les flics avaient nié fermement avoir enclenché une course-poursuite. Ils sont revenus sur ces propos. Deux enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN et le service de police spécialisé dans les accidents routiers en région parisienne. La famille ne semble pas avoir déposé de plainte.
27 août, porte de la Chapelle, encore une course-poursuite mortelle. Un homme meurt lors d'une course-poursuite, donc sa passagère est grièvement blessée. Les flics les auraient poursuivis alors qu'ils n'avaient pas de casque. Jusqu'au moment où ils se sont pris une bagnole rue Ordonneur dans le 18e. La police dit les avoir perdus et avoir arrêté de les poursuivre. Et pourtant, la version du Parisien disait que le scout avait grillé des feux et pris des trottoirs. Mais alors, comment aurait-il pu le savoir s'il les avait perdus? Et puis cette défense rigoureuse de ce sympathique syndicat Alliance. Je cite, c'est un accident de voie publique. On ne va pas reprocher aux policiers à chaque accident d'être sur la voie publique pour en faire des responsables faciles. Alors ben, permettez-nous d'en douter.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Ça, c'est le bruit que ça fait quand on ouvre une capsule de bière dans ce studio. Et on va vous parler de bière parce qu'il se trouve que certains producteurs de bière sont vraiment des salopards. En l'occurrence, on va vous parler d'Heineken en Afrique. Dans une interview donnée au Monde, le journaliste d'investigation Olivier van Biemen revient sur les compromissions et dérives du groupe néerlandais Heineken en Afrique. Alors il faut préciser qu'avec des coûts de production bien plus faibles qu'en Europe par exemple, la bière rapporte en Afrique près de 50% plus que sur les autres continents. Certains marchés comme le Nigeria sont particulièrement lucratifs et évidemment les entreprises brassicoles s'y ruent. Olivier van Biemen explique qu'il a été marqué par l'immense écart qu'il y a entre ce que Heineken prétend être et ce que l'entreprise est réellement. Cette société prétend en effet participer au développement économique du continent africain, mais elle y réalise des profits qui sont largement supérieurs à la moyenne. Depuis plus d'un siècle, elle y gagne des milliards. Heineken fait savoir que l'Afrique est un continent difficile, qui faire du business est compliqué à cause de l'instabilité politique, du manque de main-d'œuvre et d'infrastructures. Bah oui, Heineken se plaint. Mais tout ce qui est présenté comme un obstacle par l'entreprise est en réalité un avantage pour une telle multinationale. Cela lui permet en effet d'augmenter ses marges et d'influencer plus facilement les gens. En Afrique, Heineken a une politique très cynique. Alors pour commencer, il explique qu'Heineken a prospéré sur fond de corruption et de soutien à certains régimes, notamment au Rwanda, pendant le génocide des Tutsis en 1994. La multinationale a en effet continué de produire de la bière pendant les massacres, alors que certaines autres entreprises ont arrêté d'alimenter le pays. Et la Primus, la marque produite par Heineken au Rwanda, permettait aux milices Hutu d'être ivres, ce qui participait fortement au comportement que leur chef les incitait à avoir pour ensuite aller massacrer les Tutsis. Cette bière servait de motivation pendant les tueries et de récompense après. Par ailleurs, Heineken a continué de payer des taxes au régime génocidaire, c'est-à-dire à le financer directement, et elle n'a jamais essayé d'arrêter la production de bière dans le pays, alors qu'elle en aurait eu les moyens. Autre pays, la RDC, donc la République démocratique du Congo, qui, comme vous en doutez, quand on met République et démocratique dans le titre de son pays, c'est qu'on ne l'est pas vraiment. Eh bien, Olivier van Biemen indique que des vendeuses ont été contraintes à des actes sexuels avec des responsables de la société Heineken. Il a en effet rencontré plusieurs de ces femmes et même des responsables de l'époque. Par d'autres sources, il a également obtenu des documents confidentiels qui montrent que la firme était au courant de ces dérives sexuelles et ces abus sexuels auprès des employés, mais qu'elle n'a rien entrepris pour y mettre un terme. Enfin, dernier pays dont parle Olivier van Biemen, le Nigeria, où des milliers de prostituées ont été formés pour inciter leurs clients à boire des bières de la marque Légende. Donc Légende, c'est évidemment la marque d'Heineken au Nigeria. Festus Odimwegu, le directeur général de la filière de Heineken au Nigeria dans les années 2000, a raconté cette histoire aux journalistes. Et il en était même très très fier, puisque grâce à cette technique, il a boosté les ventes de la marque Légende, qui était à l'époque moribonde, en mettant en place des formations pour les prostituées. Celle-ci devait expliquer à leurs clients qu'ils seraient sexuellement plus performants en buvant de la Légende plutôt que de la Guinness, qui était à l'époque la principale concurrente. Près de 2500 travailleuses du sexe ont ainsi été formées par Heineken et le système était très efficace puisque les barman percevaient aussi des commissions en fonction du nombre de capsules de Légende qu'ils rapportaient. Donc les barman et les prostituées aidaient au développement de la marque Heineken, enfin de la marque Légende en l'occurrence en Afrique. Et il précise d'ailleurs que cette stratégie, cette politique commerciale est assez répandue en Afrique. Heineken n'est pas du tout la seule à utiliser les prostituées dans une démarche publicitaire. Pour finir, Olivier Van Biemen raconte qu'Heineken pratique l'optimisation fiscale grâce à une agence basée en Belgique et uniquement destinée au continent africain. Cette société, qui s'appelle Ibecor, est un prestataire logistique qui, a priori, d'après certains employés, explique qu'elle facturerait parfois 10 fois plus que certains services. Et donc cette surfacturation, elle permet de rapatrier les bénéfices en Belgique avant qu'ils ne soient taxés en Afrique. C'est-à-dire, entre autres, avoir des pratiques commerciales dégueulasses, et ben, Heineken ne paye pas de taxes, donc n'aide pas les services publics des pays en Afrique. En bref, on pourrait résumer en disant qu'Heineken se contorse comme ce que le capitalisme crée de pire, et à défaut de mieux, on ne pourra que conseiller de boire autre chose à votre santé.
Eh bien, merci. Et peut-être autre chose que de l'alcool, parfois ça fait du bien. Alors, on va terminer cette chronique internationale en vous envoyant un... Les gens n'ont pas l'air d'accord autour de moi, je suis parmant. En vous envoyant un petit son de la Parisienne libérée qu'on a librement coupé et adapté. On s'excuse, c'est dégueulasse de faire ça, mais on n'avait pas le temps de le passer en entier. Ça dure plus de 10 minutes. Et puis, c'est aussi un spectacle visuel. Donc, on vous encourage à aller voir la dernière vidéo de la Parisienne libérée qui est parue il y a 2 jours et qui porte sur le procès d'Altsatsu. Alors, qu'est-ce que c'est Altsatsu ? C'est le nom d'un village au Pays Basque. Et en effet, ce procès, on en a très peu parlé. Alors, écoutez.
Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité.
En France, on parle peu, voire pas du tout, du procès politique d'Altsatsu, qui illustre, non sans cynisme, les dérives de l'antiterrorisme, avec une spectaculaire réquisition de 375 années de prison pour une bagarre de bar et une cheville cassée, certes pas n'importe laquelle, celle d'un policier. Les accusés sont ainsi Yokin Adour, Yulen Inyaki, Yon Aratz, Oyan Aynara. Au début du procès, Amnesty déclara:
ces poursuites découlent d'une utilisation abusive des lois antiterroristes espagnoles. Ce cas illustre les risques qui se nichent dans des lois formulées en termes généraux et vagues, pouvant être utilisées pour criminaliser des comportements très éloignés de toute menace terroriste.
En octobre 2016 que notre histoire commence. 8 jeunes basques sont accusés de violence contre 2 policiers et leur fiancé qui au bar Koshka se désaltéraient. Cette histoire de fête à Altsatsu et tout le monde, c'est vrai, ne se souvient pas de tout. Et il semblerait qu'un petit verre en plastique ait visé un tenant de l'ordre public. Les gardes civils, comme leur nom ne l'indique pas, sont militaires de leur état. Ils n'étaient pas en service au moment des faits, mais à Altsatsu, tout le monde se connaît. Le lendemain des faits, tout à coup, soutien et réconfort à la garde civile d'Altsatsu. La brutale agression que de 2 de ses membres ont subie ne restera pas impunie. Alerté par l'offense à la guardia civile, le groupe d'action rapide investit la ville. Les télévisions s'emparent de l'événement et diffusent leurs archives en mode angoissant. L'affaire est confiée à l'audience nationale. Madrid contre les Basques, ça fait vendre le journal. Le procureur requiert Tony Truant, en tout pour les 8, 375 ans. 375 ans. Ça s'annonce mal pour les accusés quand la garde dénonce, instruit le dossier et que c'est aussi elle qui rend son jugement. Résume amèrement l'une des mamans. Mais à force d'insister, les avocats des prévenus ont pu passer une vidéo où tout le monde a vu l'ambiance devant Koshka juste après les événements, tempérant fortement le témoignage des plaignants. L'homme vêtu de blanc est un des policiers lynchés. Il passe devant des accusés sans les identifier. Il n'a pas l'air terrifié, sa chemise est impeccable. Et quand il voit qu'on filme, il dégomme le portable. Dans son jugement de juin, le tribunal n'a pas suivi jusqu'au bout le parquet infernal. Le caractère terroriste n'est pas avéré, mais voici la liste des peines prononcées. Oyan, 13 ans. Iñaki, 13 ans. Yokin, 12 ans. Adour, 12 ans. Yon, 9 ans. Yulen, 9 ans. Aratz, 9 ans. Aynara, 2 ans. Soit un total de 79 années de prison et une peine moyenne de 10 ans de détention. Les jeunes auraient agi par animosité et mépris envers les policiers. L'abus de supériorité et la haine sont retenus pour alourdir les peines. Le parquet fait appel du jugement. Il redemande 375 ans. Seul Aynara reste en liberté. Tous les autres jeunes sont incarcérés. Disons que Madrid a su saisir l'occasion d'affirmer son autorité dans la région. Elle en avait besoin. Et comment? Il faut tenir les Basques et les Catalans. Et croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Ces suprémacistes sont durs du cuir. Mais comment, par exemple, a-t-on pu prouver que c'était la haine qui les animait? Et une façon d'être, certains regardissent tout. Cela reste vague pour 10 ans au trou. Mais ouvrez les yeux, l'ensemble du village est comme contaminé par une sorte de rage. Il suffit d'assister au festival d'Ospa pour sentir planer l'ombre de Théa. Cette manière insolente de moquer l'escadron méritait une bonne correction. L'État espagnol et son unité ont connu une construction mouvementée. Il en est résulté un certain nombre d'autonomies et de compétences qui, selon les lieux, varient. La communauté autonome du Pays Basque a obtenu le droit d'avoir ses propres casques, qui ne gèrent pas l'ordre public de manière complète, mais la garde espagnole, là-bas, est plus discrète. À Altsasu, au contraire, Madrid est très généreuse en militaire, qui contrôle intensivement la population au point d'être vécue comme une force d'occupation. Il existe ainsi depuis longtemps dans la région différentes formes de revendications en faveur du départ de la Benemérita. On n'en a pas besoin et on n'en veut pas. Ni os queremos, ni os necesitamos. Alde y mendic, utzibakean. Ni os queremos, ni os necesitamos. Qu'il nous laisse en paix, que se vayan. Revendication sur le fond partagé du centre droit à la gauche à Bertzalé, que la garde civile et la police nationale aillent se faire cuire un œuf à la capitale. Pour donner plus de poids à la police locale ou pour mettre à terre les forces du capital, chacun a ses raisons de démilitariser. On en discutera ensemble quand ça sera fait. Au lieu de fantasmer l'éternel retour de Théa, le gouvernement peut-être se rappellera qu'au Pays Basque, certains antimilitaristes ont rejoint les rangs du Parti Socialiste. Le procès en appel se tiendra dans quelques mois. Sur les murs d'Altsasu, on peut lire ici ou là Altsasu Koak Aske. Pour ceux d'Altsasu, liberté. Ces jeunes de 20 ans, étudiants en musique, en maintenance, en robotique, ce futur instit, ce menuisier, cet auxiliaire de vie, ce cuisinier, sont désormais soutenus par un voisinage qui va bien au-delà du simple village. Les manifs de juin ont rassemblé des participants par dizaines de milliers. C'est que l'histoire ici encore résonne. La dureté de Madrid n'étonne personne. L'injustice d'Altsasu génère de la colère. Mais on refuse le piège, donc on refuse la guerre.
Et donc, maintenant dans le Canu Info, c'est l'heure de l'agenda. On commence, alors je suis désolée, c'est pas dans le bon sens mon truc, je crois. Bon, on commence par le week-end prochain, et oui, voilà, parce qu'il va rien se passer d'ici le week-end prochain. Et on vous propose un gala sportif dans le Trièves, pardon, c'est donc les 15 et 16, samedi et dimanche, avec du coup l'amicale du combat libre lyonnaise qui vous invite à participer et ou à assister à deux jours de rencontres sportives conviviales pour un festival d'arts martiaux. Ça se passe à Saint-Maurice en Trièves au Moulin de Recours. Je vous laisse regarder tout le programme détaillé et où ça se passe et ce qui se passe, le programme et tout ça dans rébellion-info.
Et autant vous dire qu'il y aura du